Merci d'écouter France Inter, 7h30. Le journal, bonjour Sébastien Legenie.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les premiers résultats des 80 km/h sur les routes un an après. Une limitation de vitesse qui aurait épargné plus de 200 vies. La sécurité routière lance donc un avertissement aux élus locaux. Si vous revenez aux 90 km/h, votre responsabilité risque d'être engagée. Les algues vertes sont-elles responsables de la mort d'un jeune ostréiculteur en Bretagne? Aucune certitude à ce stade. Notre reporter s'est rendu dans la baie de Morlaix à suivre dans un instant. Dans ce journal également, comment recoller les morceaux entre le ministre de l'Éducation nationale et les enseignants. Et enfin, la coqueluche Julian Alaphilippe sur le Tour de France.
Dans 20 minutes, le président par intérim du parti LR, Jean Leonetti, est l'invité de la matinale. Et l'on reparle des 80 km/h avec un premier bilan réalisé hier par la sécurité routière.
Un bilan très positif selon le gouvernement. 206 morts auraient été évitées grâce à la baisse de la vitesse sur les axes secondaires. Et ce, malgré les très nombreux radars dégradés pendant le mouvement des gilets jaunes. Malgré tout, beaucoup de départements, on le sait, souhaitent repasser aux 90 km/h. Quand la loi mobilité sera votée, ce sera en effet possible. En attendant, le Conseil national de la sécurité routière tente de mettre la pression sur les élus locaux pour qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de prendre une telle décision. Julie Pietri.
Imaginez qu'il y ait à l'avenir un accident mortel sur une route tout juste repassée à 90 km/h. Moi, je crains qu'un juge vienne y mettre son nez et demande pourquoi ce choix a été fait. C'est ce que confiait hier un élu local à la sortie du conseil. Car le message a été très clair, le 80 km/h a sauvé des vies. Si vous choisissez localement d'accélérer, ce sera de votre responsabilité. Yves Goasdoué, maire de Flers dans l'Orne et président du Conseil national de la sécurité routière.
Vous savez, les élus locaux, jusqu'à maintenant, ils n'ont fait que baisser les vitesses. Ce qui va être proposé, c'est pour la première fois de remonter les vitesses. Les élus locaux sont des gens extrêmement responsables. Encore faut-il qu'ils aient l'ensemble des dossiers.
Le CNSR réclame des études rigoureuses, méthodiques, avant chaque prise de décision. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.
Le président du conseil départemental de la Haute-Marne a annoncé qu'il repasserait 12% de son réseau à 90 km/h. 12%, ça semble modéré. Mais c'était là où il y avait 66% des morts de son département. Donc, entre cette annonce et les projets qui seront déposés, on verra ce qu'il fait.
Actuellement, environ 50 départements, soit près de la moitié des départements français, ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient revenir aux 90 km/h.
Julie Pietri, puis à noter à 3 jours de nouveaux grands départs, cette annonce du ministre de l'Intérieur. L'essentiel des radars sur les routes principales sont désormais opérationnels. Pression sur les voitures, pression aussi sur les camions. Après des mois d'hésitation, la ministre des Transports a fini par s'attaquer à l'avantage fiscal des transporteurs routiers. Les aides au gasoil pour les camions vont être réduites, une réduction de 2 centimes par litre. Les entreprises du secteur furieux se disent déjà prêtes à bloquer les routes. Dans le même registre, l'écotaxe sur le transport aérien, c'est pour l'an prochain, 2020, sur tous les vols au départ de la France, à l'exception de la Corse, des dom-toms et des correspondances.
Les algues vertes ont-elles provoqué la mort d'un ostréiculteur breton?
La polémique enfle depuis ce week-end. 2 associations de défense de l'environnement en sont persuadées. Pour elles, le saisonnier de 18 ans, mort samedi d'une crise cardiaque dans la baie de Morlaix, est certainement décédé suite à une intoxication à l'hydrogène sulfuré, ce gaz qui se dégage des algues en décomposition. Une hypothèse toutefois que ne partagent pas du tout d'autres ostréiculteurs. Le reportage sur place de Sébastien Sabiron.
Ça sent l'odeur d'œuf pourri. Et c'est ce que l'on trouve juste en grattant la couche verte que vous voyez.
Yves-Marie Lelay en est persuadé, il y a de l'hydrogène sulfuré dans l'épaisse couche de vase de la baie de Morlaix. Le président de l'association Sauvegarde du Trégor s'y déplace avec un masque à gaz.
Les algues se déposent les unes au-dessus des autres. En dessous, finalement, il n'y a plus rien que des algues en putréfaction. Et les algues en putréfaction produisent de l'hydrogène sulfuré qui pollue tout le milieu.
Si les algues vertes sont moins visibles ici qu'ailleurs, l'association a relevé 10 ppm d'hydrogène sulfuré dans la vase, 100 fois moins que la dose mortelle, ce qui ne veut pas dire que le jeune ostréiculteur n'en a pas inhalé, selon Yves-Marie Lelay.
On ne peut pas exclure que ce soit ça, mais on n'a aucune certitude. Dans certaines baies de Saint-Brieuc, nous avons la certitude que là, oui, il y a des doses mortelles. Mais là, nous n'en avons pas décelé. Et c'est pas parce que nous n'avons pas décelé qu'il n'y en a pas.
Lui-même, ostréiculteur en baie de Morlaix, Goulven-Brest dénonce une polémique opportuniste et malvenue. Il préside le comité régional de la conchyliculture.
On était dans une situation où il y avait de l'eau, donc il n'y avait pas de possibilité d'émanation de gaz. Sur cette concession, il n'y a pas d'algues vertes, donc il ne pouvait pas y avoir de cumul ni de fermentation qui aurait pu émettre de l'hydrogène sulfuré. Donc voilà, je ne comprends pas cette polémique.
Désormais, seule l'autopsie permettra de déceler une éventuelle intoxication à l'hydrogène sulfuré. Morlaix, Sébastien Sabiron, France Inter.
Sébastien Sabiron, donc en direct, enfin pas en direct, il était en reportage à Morlaix.
La crise du bac 2019 risque de laisser des traces.
Le ministre est accusé par les grévistes et leur soutien d'avoir tripatouillé les notes à l'examen, d'avoir rompu l'égalité entre élèves. Une réunion avec tous les partenaires sociaux était prévue en début de semaine pour faire le bilan de cette session bien chaotique. Réunion annulée, mais Jean-Michel Blanquer ne lâche rien. Il s'apprête à recevoir les syndicats un à un afin de recoller les morceaux et de désamorcer une rentrée potentiellement explosive, Sonia Princey.
Jean-Michel Blanquer recevra une à une toutes les organisations syndicales et les fédérations de parents à partir de vendredi et toute la semaine prochaine. L'objectif est de reparler de cette crise du bac sans se braquer, d'amener de l'apaisement, explique un conseiller du ministre. Côté syndicat, le ton risque d'être plus exigeant. Le SNES, syndicat majoritaire chez les enseignants, qui sera reçu à 7h du matin mardi prochain, n'a pas l'intention de se laisser endormir. Il va demander un bilan de la mise en place de la réforme du lycée après la rentrée et des évolutions en fonction de ce bilan. Même les syndicats qui étaient pour la réforme au départ sont beaucoup plus critiques. Le SGEN-CFDT par exemple a déposé un préavis de grève pour tout le mois de septembre. La rentrée n'a pas pu être préparée correctement à cause du bac et la situation s'annonce très compliquée, comme le dit Alexis Torcher, secrétaire général du SGEN-CFDT.
Vu l'inquiétude qu'on a par rapport à la rentrée, on a déposé un préavis de grève, non pas sur des problématiques nationales, mais bien pour des problématiques locales. Si les personnels d'un lycée, d'un établissement considèrent que les conditions de rentrée ne sont pas satisfaisantes, pouvoir agir auprès de leur chef d'établissement, auprès de leur rectorat, et éventuellement faire grève si vraiment il n'y a pas d'autre solution que celle-là.
Quelle que soit la position des uns et des autres, tout le monde s'accorde à dire que le bac 2019 laissera des traces et que le dialogue sera difficile à renouer.
Sonia Princey, la Cour de cassation doit se pencher aujourd'hui sur l'une des affaires les plus polémiques lors de la crise des Gilets jaunes. C'était en mars dernier, Geneviève Leguet, retraitée, avait été blessée dans un rassemblement interdit à Nice après avoir été poussée lors d'une charge de police. Mais l'enquête avait bien mal démarré, le procureur mettant trop rapidement hors de cause les forces de l'ordre avant de faire marche arrière. Depuis, l'avocat de la retraitée réclame le dépaysement de cette affaire, une demande examinée ce matin par la plus haute juridiction française. Sophie Parmentier.
Il ne peut pas y avoir de justice sereine à Nice dans cette affaire Leguet, clame l'avocat de cette manifestante de 73 ans qui souffre toujours de son traumatisme crânien près de 4 mois après avoir été poussée par un policier lors d'un rassemblement interdit de gilets jaunes. La justice niçoise ne pourra jamais mener l'enquête avec impartialité, répète maître Arié Halimi, qui rappelle les conflits d'intérêts du début. Le procureur de Nice avait notamment confié l'enquête à une commissaire qui est en fait la compagne du policier mis en cause pour avoir donné l'ordre de la charge contre Geneviève Leguet et les autres manifestants altermondialistes. Le dépaysement de l'enquête est donc indispensable aux yeux de maître Halimi, qui rêve d'ailleurs de le systématiser pour toute affaire de violence policière.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce type de dépaysement dans les dossiers de violence policière n'aille pas de soi, c'est-à-dire qu'il ne soit pas automatique. Parce que dans tous les dossiers de violence policière, les policiers ou les gendarmes qui sont impliqués connaissent forcément les juges ou les procureurs de la République avec qui ils travaillent. Et effectivement, on a un problème de conflit d'intérêts systématique et structurel.
Dans cette affaire, l'avocat de Geneviève Leguet a déjà le soutien de l'avocat général de la Cour de cassation, favorable lui aussi au dépaysement de l'enquête judiciaire.
Sophie Parmentier.
7h39 sur France Inter, le journal Sébastien Logeni, direction l'Irak à présent, 2 ans après la libération de la ville de Mossoul occupée par l'État islamique.
Le 10 juillet 2017 exactement, les djihadistes étaient officiellement chassés de la ville capitale irakienne du califat autoproclamé. La fin d'une bataille particulièrement dévastatrice, la vieille ville a été pratiquement entièrement détruite par les combats, les bombardements de la coalition internationale. 2 ans après, le cœur historique de Mossoul reste un champ de ruines quasi désert, abandonné par le gouvernement irakien. C'est un reportage de notre envoyé spécial Noé Pignède.
C'est un dédale de ruelles où s'entassent les gravats, une succession de bâtiments éventrés, désertés par les habitants.
Deux ans après la libération, la vieille ville de Mossoul ressemble toujours à un champ de bataille. Les yeux humides, Abdelkarim est debout sur un tas de pierres, les restes de son ancienne maison.
Ma famille habitait ici depuis 7 générations. La cave voûtée que vous apercevez en dessous des décombres, juste là, avait plus de 600 ans. Bombarder le quartier, c'était la pire des solutions pour nous libérer. Tous les civils étaient coincés ici avec Daesh. Les djihadistes étaient cachés dans cette rue, mais au lieu d'envoyer des soldats pour les tuer, ils ont préféré tout raser.
Malgré ces nombreuses demandes, les gravats de la maison d'Abdelkarim n'ont toujours pas été déblayés. Ce père de 4 enfants désespère de pouvoir rentrer un jour chez lui.
La vie ne reviendra jamais dans la vieille ville de Mossoul. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles, tout est détruit. Il n'y a plus de services publics, aucune aide, pas de travail. Les seules personnes qui reviennent vivre ici sont les plus pauvres, car ils n'ont nulle part d'autre où aller.
Faute d'argent pour rebâtir leur maison, 300 000 Mossouliotes vivent toujours dans des camps de déplacés. Selon un rapport de l'agence irakienne de lutte contre la corruption, 64 millions de dollars destinés à reconstruire la ville auraient été détournés par le gouvernement. Mossoul, Noé Pignat, France Inter.
Et l'on termine avec le Tour de France, Sébastien, et une nouvelle victoire de l'équipe de Julien Alaphilippe.
Le Français toujours en jaune après la victoire hier de son coéquipier Elia Viviani de Koenig Quickstep. Le Français coqueluche du public sur la grande boucle aussi parce qu'il a le sens du spectacle, Xavier Monferrand.
Il célèbre toutes ses victoires à coups de musique disco. Pour Julien Alaphilippe, le vélo est une fête et ça fait du bien au cyclisme pour son directeur sportif Tom Stills.
Il y a toujours quelqu'un qui prend le risque pour la victoire. Il est toujours motivé, il est toujours là, jamais déçu. Parfois il dort, mais quand même 5 minutes après il danse. Alors c'est un coureur quand même pas comme les autres.
Alaphilippe, c'est le vélo champagne. Il n'est jamais le dernier pour faire le spectacle et pas seulement pendant la course. Roue arrière, roue avant, photo avec les spectateurs. La ligne d'arrivée est une scène pour lui et ça rappelle quelqu'un à notre consultant Jean-François Bernard, ancien maillot jaune du Tour.
C'est un bout en train. C'est le showman du peloton, c'est un peu notre Sagan à nous quelque part. Il ressemble un peu à ce genre de personnage, puis en plus un coureur qui gagne. Donc quand vous avez tous ces atouts-là, vous marquez les gens.
Un Peter Sagan à la française, ça se pourrait bien, le principal intéressé valide.
Oh wow, could be.
Saint-Dié-des-Vosges, Xavier Monferrand, France Inter.
Alors aujourd'hui, 5e étape dans l'est de la France, 175 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar.
Well, merci Sébastien Logénie pour le journal.